Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène en Alaska, le troisième état le moins peuplé des États-Unis. On est plus précisément à Anchorage, la ville la plus peuplée de l'état. Alors que New York compte 7256 habitants au kilomètre carré et Los Angeles presque 3000 habitants au kilomètre carré, à Anchorage on compte seulement 58 habitants au kilomètre carré. Pas si étonnant pour l'une des villes les plus au nord de la planète. Anchorage est plus urbaine que tout le reste de l'Alaska et la ville est dotée de toutes les commodités, restaurants, musées, cinéma, théâtre, etc. Mais à ses portes se trouve la nature, des montagnes, des forêts et bien sûr les prédateurs qui vont avec, des ours, des loups, des coyotes ou encore des gloutons. Et en parlant de gloutons, niveau bouffe, on y sert de la saucisse d'élan, tout ce qui se fait à base de saumon et en dessert du crumble au baies sauvages. Je suis obligée de faire une parenthèse bouffe. Malgré ses réjouissances culinaires, il ne semble pas faire si bon vivre à Anchorage. Le site Area Vibes attribue une note aux villes en fonction du confort de vie de leurs habitants, et c'est un F pour Anchorage. Et en même temps, ça se comprend puisque le climat n'est pas vraiment hospitalier. Les températures montent à 34 degrés en été, et elles descendent jusqu'à moins 54 en hiver. En plus de ça, Anchorage a l'un des taux de criminalité les plus élevés du pays. Pourtant, il n'y a personne, mais c'est comme ça. En 2022, un total de 3289 crimes violents sont commis à Anchorage, soit 211% de plus que la moyenne nationale. Ces crimes sont peut-être favorisés par l'immensité rurale de l'État. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont accessibles qu'en avion, en hélicoptère ou en traîneau. Dans ces zones isolées au milieu des forêts, les forces de l'ordre ont du mal à y avoir accès. Les effectifs de police sont installés dans les grandes villes et ne se rendent qu'en cas de besoin dans les petites communautés. Peut-être que ce manque de surveillance, de présence, conjugué à la grande superficie inhabitée facilite les crimes. Malgré ça, les locaux continuent d'y vivre, ils profitent de la nature pour pêcher, pour chasser ou tout simplement pour faire des randonnées dans les nombreux parcs nationaux alentour. Cynthia Hoffman, qui préfère qu'on l'appelle Cici, naît le 8 octobre 1999 à Anchorage. Elle a 6 frères et sœurs et tous s'entendent très bien. Depuis toujours, Cici a de bonnes relations avec ses parents, Timothy et Barbara. Les Hoffman sont une famille très aimante et soudée. La vie de Cici est challengée par un retard de développement. Alors qu'elle a 19 ans, elle a la capacité mentale d'une personne de 12 ans. Elle a du mal à concevoir la malveillance et elle approche la vie avec beaucoup de naïveté. Elle est ouverte, elle est loyale et elle est très appréciée par ses proches pour ses qualités. Elle est aussi très travailleuse, elle ne laisse pas son handicap la ralentir. Au lycée, elle sort diplômée à 18 ans. Et c'est d'ailleurs là qu'elle rencontre sa meilleure amie, Denali Bremer. Denali a un an de moins que Cici, et le jour où elles se rencontrent, elles deviennent inséparables. Ce jour-là, d'ailleurs, Cici rentre chez elle et elle saute dans les bras de son père en lui disant « Papa, j'ai enfin trouvé une amie ». Denali est souvent invitée chez les Hoffman, les deux adolescentes se retrouvent dehors, elles traînent ensemble, elles se prennent en photo, une amitié, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, elles fument quand même un petit peu d'herbe thérapeutique pendant leur balade en forêt, mais rien de méchant dans une ville où la méthamphétamine et l'alcool font des ravages. Après la période lycée, Cici continue ses études. Elle suit un programme de transition professionnelle, en gros un diplôme professionnalisant pour les jeunes de 18 à 21 ans. Et elle ne manque pas de volonté, parce qu'à côté de ses études, elle travaille d'abord dans des restaurants, et ensuite, comme ses sœurs, elle rejoint son père dans l'entreprise familiale. Hoffman, homme de main et réparation, une entreprise spécialisée en bricolage, décoration et travail de maintenance. Cici est chargée de mesurer des fenêtres, elle mélange le béton, en gros, elle fait tout ce qu'elle peut pour seconder son père dans ses tâches. Le dimanche de juin 2019, les deux amies ont prévu d'aller marcher en forêt pour admirer la cascade Thunderbird Falls. L'accès au sentier est simple, un parking donne directement sur le départ de la randonnée, le chemin sillonne ensuite le long de la rivière Eklutna, puis suit le cours de Thunderbird Creek jusqu'à tomber sur un panorama donnant sur la cascade. Le 2 juin, Cici doit récupérer le salaire hebdomadaire que lui doit son père pour les heures travaillées dans l'entreprise familiale. Elle doit aller faire du shopping avec l'une de ses sœurs. Mais Cici a autre chose en tête. Elle récupérera l'argent ce soir. C'est pas grave, elle ira plus tard au centre commercial parce qu'aujourd'hui, sa copine Denali lui propose d'aller faire une randonnée avec un de ses amis. Il s'appelle Caden, il a 16 ans. Cynthia ne le connaît pas trop, mais il a l'air assez sympa. Et elle aime tellement passer du temps avec sa meilleure amie, peu importe s'il y a quelqu'un d'autre. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Denali et Caden passent chercher Cici chez elle après le déjeuner. Les trois adolescents montent tous dans une voiture prêtée par un ami de Denali et direction la cascade. Il est un peu avant 15h quand ils se garent sur le parking qui donne sur le sentier. Ils ont jusqu'à la fin de l'après-midi pour se balader et ensuite ensuite Denali doit déposer Sissi au parc Polar Bear pour qu'elle puisse rentrer chez elle. C'est un endroit où les deux amis se retrouvent souvent d'ailleurs. La fin de journée se passe comme prévu dans la maison des Hoffman. Tout le monde se prépare pour la nouvelle semaine qui s'annonce. Sissi ne doit pas tarder à rentrer pour en faire de même. En fin d'après-midi, elle envoie un message à son père disant « Je suis bien arrivée au parc Polar Bear, c'est Denali qui m'a déposé, je ne rentre pas trop tard, bisous ». Mais l'après-midi passe et Sissi ne rentre pas. Quand arrive le soir, Sissi n'est toujours pas rentrée. Timothy, son père, s'impatiente. Il tente de l'appeler, mais elle ne répond pas. Et là, il sent que quelque chose ne va pas. Il a veillé à établir une règle, et je reprends ses mots. Dans cette famille, tout le monde a un téléphone. Quand papa appelle, tu réponds. Je m'en fiche que tu sois à l'église et que le saint pasteur prêche. Je m'en fiche que tu sois à l'école en plein contrôle pour ton diplôme d'études secondaires. Si papa appelle, tu décroches. Sissi ne décroche pas. Pourtant, elle connaît bien la règle. Timothy contacte alors Denali, puisqu'il sait que sa fille a passé l'après-midi avec elle. Et Denali confirme qu'elle a bien déposé Sissi vers 16h au parc. Elles ne sont plus ensemble, mais elle le rassure. « Je pense qu'elle va rentrer bientôt, ne vous inquiétez pas. » Mais Timothy s'inquiète. Il est persuadé que quelque chose ne va pas. Il appelle la police pour signaler la disparition inquiétante de sa fille. Et comme c'est malheureusement souvent le cas, on lui dit d'attendre 24 heures. Sissi, elle a 19 ans, elle est majeure. On estime que même si ça pourrait être une disparition, ça peut tout aussi bien être un départ volontaire ou bien elle va simplement rentrer un peu plus tard que prévu. Timothy a beau insister, elle a un trouble du développement, elle est plus proche d'une enfant de 12 ans que d'une jeune de 19 ans. Rien n'y fait. Au revoir monsieur et à demain. Quand on sait que les premières heures qui suivent une disparition sont primordiales et quand on sait qu'un parent connaît son enfant et qu'il ne va pas déclarer une disparition comme ça, si vraiment il y avait la probabilité d'un simple retour à la maison tardif, on se demande pourquoi aujourd'hui encore la police ne prend pas toujours au sérieux de tels signalements. Évidemment, Timothy ne va pas rentrer chez lui, se poser sur son canapé et laisser passer 24 heures en regardant la télé. Pour lui, la question ne se pose même pas. Il part à la recherche de sa fille. Il arpente la ville sur sa moto. En quelques heures, il réunit des voisins, des amis, de la famille, et ensemble, il cherche les bois alentours, en commençant par le parc Polar Bear. Mais il ne trouve rien. Les recherches continuent le lendemain. Timothy va convoquer tous ses potes motards du gang des BLC Warriors, et ils partent en convoi parcourir les environs d'Anchorage à moto. Ça, c'est un daron comme on les aime. Timothy contacte également les médias locaux. Il lance des appels sur les réseaux sociaux et à la radio. Denali s'inquiète de son côté, elle aussi, et elle échange des SMS avec Timothy. « Je commence à m'inquiéter. Est-ce qu'elle va bien? J'espère qu'elle rentrera saine et sauve. C'est ma meilleure amie. » Ensuite, elle va donner les noms de certains garçons qui ne lui inspirent pas confiance. Elle finit par « Je l'aime aussi. Je veux le meilleur pour elle et je veux qu'elle revienne. » Les recherches continuent, les forces de l'ordre arrivent en renfort, enfin après 24 heures de recherche épuisante pour Timothy et ses proches. Épuisante et surtout infructueuse, Sissi est toujours introuvable. Le mardi 4 juin 2019, deux jours après la disparition de Sissi, la police est appelée sur le bord de la rivière Eklutna, près de la cascade Thunderbird, à 30 minutes au nord d'Anchorage. Un corps a été retrouvé. Très vite, ce corps est identifié, il s'agit de la jeune Cynthia Hoffman. Elle est étendue sur la rive, elle est bâillonnée, ses pieds et ses mains sont attachées avec du gros scotch. Elle a reçu une balle à l'arrière de la tête. Des agents de police se rendent au domicile des Hoffman, ils frappent à la porte, Timothy ouvre, il les regarde et il demande « Elle est morte, c'est ça ?» Et les policiers répondent « Oui ». Timothy dira quelques jours plus tard « Quand Sissi n'est pas rentrée à la maison le premier jour, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Quand elle n'est pas rentrée à la maison le deuxième jour, j'ai su que la police allait venir frapper à ma porte un jour ou l'autre. » Le travail du médecin légiste prend quelques jours, puis le corps de Sissi est rendu à sa famille. Le 8 juin, le cercueil de la jeune Cynthia Hoffman, 19 ans, est escorté par Timothy, sa famille éplorée et leurs amis motards jusqu'au cimetière. Et il ne va pas falloir plus longtemps à la police pour boucler son enquête. La disparition et le meurtre de Sissi sont tellement violents et incompréhensibles qu'ils font beaucoup de bruit dans la région. Tout le monde est au courant à Anchorage de ce qui est arrivé à la jeune fille. Les médias locaux en parlent dès le lendemain. Le 3 juin, un membre de la famille d'une des dernières personnes à avoir vu Sissi en vie appelle la police et explique que Denali et Kayden ont parlé. Ils ont avoué avoir commis le crime. Cette personne ne sait pas où ça s'est passé, elle n'a pas plus de détails à apporter et elle n'a pas revu les adolescents depuis. Elle raconte qu'au début, elle ne les a pas crus, mais qu'elle a vu partout à la télé l'histoire de Cynthia Hoffman et elle pense maintenant que les deux disaient vrai. Denali et Kaden sont donc interrogés dans la foulée. Mais ni Kaden ni Denali ne disent savoir quoi que ce soit. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont déposé Sissi au parc, comme elle l'a demandé. Ils ne l'ont pas revue depuis. Est-ce que Sissi a des ennemis? Ils ne le savent pas. Est-ce que quelqu'un lui en veut? Est-ce que c'est le fait d'un monstre qui était de passage? On se le demande. Mais le 6 juin, d'après certaines sources, une vidéo postée sur Snapchat montre Denali qui bredouille quelque chose, elle est en pleurs, c'est une genre de confession ou des excuses. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je suis désolée, je suppose que vous allez entendre parler de moi, je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas le faire. Et en arrière-plan, on aperçoit Kaden qui fait les 100 pas. La vidéo est signalée à la police et Denali et Kaden sont tous les deux arrêtés. Denali décide alors de dénoncer Kaden. Voici ce qu'elle raconte. La journée se passe normalement, les trois amis se retrouvent, ils fument un joint et ils décident d'aller se balader et admirer la cascade. Et là, ils ont une idée. Venez pour s'amuser, on s'attache les mains et les pieds avec du scotch et on se prend en photo. Excellente idée, nous sommes d'accord. Ils attachent donc Sissi, avec son accord évidemment, selon la version de Denali. Ils la prennent en photo et d'un coup, Denali sort un pistolet. Elle la met en joue, et là Sissi panique, bien sûr il y a de quoi, elle s'agite, elle est terrorisée, Denali lui retire le scotch des mains et de la bouche, et elle essaie de lui parler pour la calmer, mais Sissi ne se calme pas, elle hurle, elle va appeler la police et les dénoncer pour kidnapping. Cette blague ne la fait pas rire du tout. Elle attrape son téléphone, et là, d'après Denali, Kaden panique à son tour, il arrache l'arme des mains de Denali, il vise Sissi, et il tient. Sissi est touchée à la tête, elle s'écroule, mais apparemment elle n'est pas morte, elle convulse. Denali panique, elle et Kaden vont pousser Sissi dans la rivière, après ça ils quittent les lieux, ils font comme si de rien n'était. Denali va simuler sa tristesse auprès de Timothy, mais elle jure que le meurtre n'est pas prémédité. Kaden avoue que c'est bien lui qui a tiré, et Denali est relâché. Par contre, il a oublié de préciser. C'est Denali qui a amené l'arme à feu, c'est pas lui. Dans le même temps, le téléphone de Denali est passé au crible et il va révéler bien des choses. Le 7 juin, Denali est arrêté à nouveau et pour de bon cette fois. Penchons-nous sur son cas. Denali Bremer naît le 12 février 2001, elle grandit à Anchorage dans un environnement très dysfonctionnel. Troisième d'une fratrie de 5, que des filles, elle grandit dans un foyer où les négligences et les abus sont monnaie courante. Leur mère et parfois ses petits amis font pleuvoir les coups. Les abus atteignent leur paroxysme quand un des copains de leur mère tue leur petite sœur de 2 mois, Gabrielle. Il la roue de coups, elle ne survit pas à cette attaque. Tous les enfants sont alors retirés du foyer. Denali est adoptée à l'âge de 18 mois. On ne sait pas grand-chose de son enfance après son adoption. On sait qu'elle fréquente le lycée Service, où elle obtient son diplôme et où elle fait la rencontre de Sissi. On sait également que Denali tombe enceinte à un moment donné et elle placera son bébé à l'adoption juste après la naissance. En 2019, 6 mois avant le drame, Denali reprend contact avec sa mère biologique, Nicole House. Et tu te rappelles cette histoire d'aveu sur Snapchat qui permet à la police d'arrêter Denali et Kaden la première fois dès le lendemain du meurtre? Et bien c'est Nicole, la mère biologique de Denali, qui dénonce sa fille et son pote Kaden. Ce qu'on sait aussi de Denali, c'est qu'elle aime se présenter sous différents alias, Denali Bremer, Dakota Bremer, Dakota Smith. Elle est d'ailleurs connue par Lee Hoffman sous le nom de Angela. Et sur les réseaux, son pseudo c'est Angel. Et c'est sur Snapchat plus précisément qu'elle fait la rencontre en 2019 d'un certain Tyler, son petit ami, un riche millionnaire qui habite dans le Kansas. On ne sait pas exactement quand, mais quelques mois avant le meurtre de Sissi, Tyler et Denali échangent leur premier message. Tyler envoie à Angel, aka Denali, une photo de lui dans sa maison de New Salisbury, dans l'Indiana. Les messages continuent, les deux adolescents flirtent, ils se rapprochent jusqu'à s'appeler bébé, ils en viennent à échanger leurs secrets et leurs fantasmes. Et il a des fantasmes vraiment pas très catholiques, le Tyler. Notamment un fantasme concernant un meurtre, ou plutôt un viol suivi d'un meurtre. Il en fait part à sa douce Angel, slash Denali, et elle ne semble pas choquée. Elle aime au contraire l'attention qu'il lui porte, c'est une rebelle, une femme forte, donc elle peut tout entendre de son amoureux, même des choses difficile, ou plutôt chelou, et criminel. Et quand on a passé toute sa vie à Anchorage, un millionnaire dans l'Indiana, bah ça fait rêver. Ce riche petit ami est peut-être une porte de sortie de cette vie médiocre. Tyler se sent à l'aise, il continue de parler de ses fantasmes déviants, et un jour, la proposition tombe. Tyler offre à Denali 9 millions de dollars pour le viol et le meurtre d'une femme en Alaska, à condition qu'elle lui envoie des photos et des vidéos de l'acte. Denali avait tout le temps de renoncer, de dénoncer Tyler, mais non, elle s'est plutôt dit « jackpot ». Dans une horrible logique, Denali se dit que cette personne à battre, bah, ça va être Sissi, parce qu'elle est son amie la plus proche, elle est crédule, elle lui fait confiance. Ça va être facile de l'attirer à l'écart dans les bois, bien plus simple que d'essayer d'y amener un étranger ou une étrangère. Elle organise donc la sinistre journée, elle demande l'aide de quatre connaissances. Caleb Leyland, 19 ans, on ne connaît pas grand-chose de sa vie, ce qu'on sait c'est qu'il prête sa voiture pour permettre de rejoindre un endroit isolé. Il y a aussi Kaydon McIntosh, 16 ans, qui est sans domicile fixe à cette période. Et attention, sans domicile fixe en Alaska, c'est pas un sans domicile fixe de Marseille. Les températures sont difficiles et des gens meurent littéralement de froid. Alors ça meurt de froid en France aussi, alors imagine en Alaska. Kaydon, lui, est chargé d'accompagner Denali et Sissi en forêt, de restreindre Sissi si elle se débat, et bien sûr de commettre le viol. Deux autres adolescents sont impliqués, on ne sait pas dans quelle mesure, et on ne connaît pas leur nom. Ils sont mineurs au moment des faits, donc leurs identités sont tenues secrètes. Bien sûr, chaque partie se voit promettre une partie du butin offert par Tyler. À la fin du mois de mai, ils se serrent tous la main, le pacte est conclu. Ils vont violer et tuer Sissi pour se partager 9 millions de dollars. Dans les semaines qui précèdent le meurtre et sur les conseils avisés de Tyler, Denali se rapproche davantage de Sissi. Elle la met encore plus en confiance, de bonnes amies qui deviennent vraiment inséparables. Le 2 juin, en tout début d'après-midi, Tyler et Denali échangent quelques messages sur Snapchat. Tyler, alors tu vas le faire, Denali. Ouais, je pars récupérer Cynthia chez elle, j'ai trouvé l'endroit parfait pour le faire. D'abord, je passe acheter de la weed, je vais la faire fumer, flemme qu'elle se débatte. Si besoin, faites-la s'attacher elle-même. Denali, d'accord, Tyler, et n'oublie pas de faire la vidéo. Une heure plus tard, Denali, Kaydon et Sissi arrivent sur le parking de Thunderbird Falls, Denali gare la voiture de Caleb, et les trois adolescents se préparent à entamer leur randonnée. Le chemin forestier longe la rivière Eklutna, puis remonte jusqu'au panorama. Mais ce n'est pas ce chemin qu'ils vont prendre. Au lieu de suivre le sentier balisé, Denali et Kaydon entraînent Sissi sur un autre chemin. Un petit chemin entre les bouleaux où personne ne va habituellement et qui commence derrière les toilettes publiques du parking. Sissi, confiante et un peu foncedée, elle sourit, elle est venue pour une balade entre amis, elle profite de l'air frais, de la forêt. Comment pourrait-elle se douter de ce qui l'attend ? Une fois arrivée dans une clairière à l'écart du parking, Denali et Kaydon se jettent sur Sissi. Ils la maintiennent à terre, ils lui attachent les poignets et les chevilles et ils la bâillonnent avec du gros scotch. Sissi ne comprend pas du tout ce qu'il se passe. Denali prend en photo la pauvre Sissi, ligotée, les yeux remplis de larmes. Elle en profite pour faire une vidéo Snapchat. Elle envoie ses deux belles productions à Tyler. La première étape du plan est validée, il faut passer à la deuxième. Le viol. Mais alors que Kaydon la déshabille, Sissi se débat, elle parvient à dégager son bâillon et elle crie « Je vais tout dire à la police, je vais leur dire que vous m'avez kidnappé pour me faire du mal ». Denali et Kaydon paniquent, et si on les entendait depuis le parking, ils s'empressent de remettre du scotch sur la bouche de Sissi. Tant pis pour le viol, il faut en finir. Denali braque Sissi avec le pistolet 9mm qu'elle a apporté, qu'elle a volé à ses parents adoptifs. Elle ordonne à Sissi de se mettre à genoux. D'une main, elle pose le canon de l'arme sur la nuque de Sissi et de l'autre, elle tient son téléphone pour filmer son acte. Tyler, bien au chaud dans l'Indiana, derrière son écran, ne manque pas une miette de la scène. Sissi ne peut pas appeler à l'aide, elle ne peut pas supplier, mais elle comprend très bien ce qu'il se passe et comment ça va finir. Elle se met à pleurer. Denali hésite, elle n'arrive pas à tirer. Est-ce qu'elle prend conscience de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est sur le point de faire ? Est-ce qu'elle veut annuler son plan macabre ? Pas du tout. Elle va simplement tendre l'arme à Kaydon et elle va lui dire « Fais-le toi, bute-la ». Sans réfléchir, Kaydon prend l'arme, il vise l'arrière de la tête de Sissi et il tire à bout portant. Le téléphone de Denali filme encore. Sissi est à terre, elle est prise de convulsions. Denali filme toujours la scène. Sissi a les pieds et les poings liés, la tête en sang, mais elle est toujours en vie. Il la jette à l'eau, elle disparaît dans les eaux glacées de la rivière Eklutna. Suivant toujours les instructions du richissime Tyler, Denali et Kaydon vont au parc. Ils envoient un message à Timothy avec le portable de Sissi. Le fameux « Je suis bien arrivé au parc, c'est Denali qui m'a déposé, je ne rentre pas trop tard, bisous ». Ensuite, ils vont se débarrasser de l'arme à feu, ils vont brûler le sac à main et les vêtements de Sissi ainsi que sa carte d'identité. Dans les heures qui suivent, Denali s'inquiète certes, mais pas pour son ami comme elle le prétend dans les SMS qu'elle envoie à Timothy. Elle s'inquiète parce que son cher Tyler ne répond plus. Elle commence à comprendre qu'elle a assassiné une innocente pour 9 millions de dollars imaginaires et qu'en plus elle a documenté tout son crime. Évidemment, il n'y a jamais eu d'argent et ce Tyler n'existe pas d'ailleurs. Le catfishing, c'est quoi? Alors, le catfishing, c'est le fait de fabriquer une fausse identité en ligne pour tromper quelqu'un dans une fausse relation, souvent avec l'intention de troller ou d'escroquer la victime en la convainquant d'envoyer de l'argent. Mais il existe plein de formes de catfishing pour différentes raisons. Parfois, ça peut être bien pire, comme dans cette affaire. Évidemment, Denali, jeune ado qui se sent seule, avec un passé compliqué, un destin incertain, n'est pas tombée à tout hasard, grâce à Snapchat, sur un prince charmant. Tyler est un catfisher, un scammer. Il n'est pas millionnaire, loin de là, il ne s'appelle même pas Tyler. Par contre, il habite bien dans l'Indiana, à New Salisbury, une petite commune rurale de 600 habitants, près de la frontière avec le Kentucky. Il vit dans le sous-sol de la maison de sa grand-mère, il a 21 ans et il s'appelle Darin Schillmiller. Il est loin du beau gosse plein aux as qu'il prétendait être sous le prénom Tyler. Et il est déjà connu des services de police. Adolescent, c'est le mec chelou du quartier, il est très timide, il a des problèmes à l'école, il est un peu harcelé et il n'a pas de très bonnes notes. Il aime déjà, à cette époque, créer des faux comptes sur les réseaux sociaux pour demander aux filles de son école de lui envoyer des photos d'elle. Jaden Paul, une ancienne camarade de classe au collège et au lycée, raconte « Il a toujours eu un problème avec la p*** et peut-être même avec la p*** fille. » Elle est à l'époque deux classes en dessous de lui et lui demande sans relâche des photos d'elle en bikini et une fois même en utilisant un faux profil. Mais ses exploits ne s'arrêtent pas là. Plus tard, après l'école, il s'illustre à nouveau. Au fur et à mesure que les années passent, ses camarades de classe deviennent parents. Il demande alors aux jeunes mamans de lui envoyer des photos de leurs enfants. Au sein d'une communauté de seulement 600 personnes, faut vraiment être débile, parce que évidemment ça va savoir et très vite. Darin recrute des femmes sur les réseaux sociaux pour tenter d'obtenir des images. Il demande des photos de couches de bébés sales, ou même des photos de bébés directement. Et pire encore, il demande une fois à une femme d'envoyer une vidéo d'elle en train... J'arrive pas à croire que je vais combiner ces mots ensemble, en train de faire une fellation à son bébé. Après avoir été dénoncé par plusieurs de ces femmes, Darin fait l'objet d'une enquête du FBI pour pédopornographie. Et ça, ça se passe en 2018. Des dizaines de faux profils en ligne de Darin sur plusieurs années, sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux sont alors identifiés. Et les thèmes communs, un fort désir de se faire des amis, de trouver des amis et de connecter avec des femmes. Mais l'affaire est classée sans suite, hein, donc apparemment tu peux demander ce genre d'image à des mamans sans être inquiété par la justice. Le 9 juin 2019, Darin slash Tyler est arrêté et interrogé par des agents fédéraux et par la police de l'État de l'Indiana dans le cadre du meurtre de Cynthia Hoffman. Denali, qui apprend depuis sa cellule que Darin l'a catfiché, décide de le traîner avec lui. Elle raconte le pacte. Et en même temps, avec leurs échanges, ça n'aurait pas pris beaucoup de temps à la police pour remonter jusqu'à lui. Darin avoue son implication, il est le cerveau derrière le meurtre de Sissi. Il a manipulé Denali pour qu'elle réalise son sinistre fantasme. Et c'est pas tout. Au cours de l'enquête pour le meurtre de Sissi, le portable de Denali va révéler d'autres horreurs. Tyler, une fois bien en confiance avec Denali, une fois qu'il commence à s'appeler bébé, il a compris qu'il peut manipuler à sa guise la jeune femme, la jeune adolescente. Il ne va pas hésiter à passer commande. L'enquête révèle deux affaires de pédopornographie sur le même fonctionnement. Darin commande, Denali s'exécute. Darin ordonne à sa chérie d'agresser sexuellement une fille de 8 ou 9 ans, de filmer l'agression et de lui envoyer la vidéo. Pas de problème, Denali est partante. Darin lui demande de violer une jeune femme de 15 ans, de filmer et de lui envoyer la vidéo. Pas de problème, Denali est encore et toujours partante. On ne sait pas qui sont ses victimes, elles sont mineures, donc leurs identités sont protégées. On ne sait pas comment Denali les a trouvées non plus. L'enquête est bouclée, le procès se prépare. Et c'est 6 accusés qui sont présents à la cour dans cette affaire. Le procès débute, 6 adolescents et jeunes adultes sont accusés d'avoir comploté et orchestré le meurtre de Cynthia Hoffman. Les deux mineurs anonymes sont poursuivis devant le tribunal pour enfants, mais on n'a pas de détails sur leur implication. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont actuellement en détention. Caleb Leland, 19 ans, qui en a 15 au moment du meurtre, plaide coupable pour meurtre au second degré, donc sans préméditation, pour avoir prêté sa voiture, sachant très bien à quoi elle allait servir. Il est condamné à une peine de prison ferme de 40 ans, suivie de 10 ans de sursis. Pendant le prononcé de sa sentence, Caleb dira « Je suis vraiment désolé, j'ai honte de ce crime haineux ». Kaden McIntosh, 20 ans, qui en a 16 au moment du drame, plaide non coupable pour meurtre au premier degré. Il encourt une peine de 30 à 85 ans de prison. Il est en attente de son procès qui doit se tenir en novembre 2024. Il est actuellement incarcéré au département correctionnel de l'Alaska et il n'est pas éligible à une libération conditionnelle. Denali Bremer, 23 ans, 19 ans au moment des faits, est inculpée devant le tribunal d'État pour meurtre au premier degré et elle plaide coupable. Le juge de la Cour supérieure d'Anchorage, Andrew Peterson, accepte son accord de plaidoyer. Et dans le cadre de cet accord, les accusations de complot en vue de commettre un meurtre, de sollicitation de meurtre, de falsification de preuves matérielles et les deux accusations de meurtre au second degré sont abandonnées. Patrick Mackay, procureur adjoint du district d'Anchorage, déclare « Denali Bremer s'est livrée à l'un des crimes les plus graves d'Alaska. Elle a exécuté Cynthia Hoffman dans le cadre d'un complot de meurtre contre rémunération. Elle a conspiré avec de nombreuses autres personnes en Alaska et ailleurs, y compris des mineurs, modifiant à jamais la vie de chacun. Elle n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais cela ne serait jamais arrivé sans Denali Bremer. Denali risque de 30 à 99 ans de prison sans sursis et elle est finalement condamnée à 99 ans de prison sans sursis. Elle est qualifiée par le juge Andrew Peterson de l'un des pires délinquants qu'il ait jamais rencontré. Le tribunal exprime son espoir qu'une telle peine ait un effet dissuasif sur les autres membres de la société. Et qu'en est-il du cerveau derrière cette opération d'Arin Schillmiller, aka Tyler, 24 ans au moment des faits. Comme Denali, il est condamné à 99 ans de prison sans sursis. Le juge Peterson s'exprime, il s'agissait d'un meurtre intentionnel et prémédité contre rémunération. Vous avez comploté avec les co-accusés pour tuer quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré sans autre raison que le simple plaisir de contrôler les autres et de voir ce que ça fait. Darin pleure au moment du verdict, mais il ne tente pas de se défendre. Il manquerait plus que ça. Darin et Denali sont aussi inculpés devant un tribunal fédéral pour complot, production et distribution de pornographie juvénile. Ils risquent jusqu'à 30 ans pour complot en vue de produire de la pornographie juvénile, 30 ans supplémentaires pour production de pornographie juvénile et 20 ans pour distribution de pornographie juvénile. Darin est aussi accusé de coercition et d'incitation à l'égard d'un mineur. S'il est reconnu coupable de ce chef d'accusation, il encourt une peine supplémentaire de 10 ans à la perpétuité. Alors je pense qu'on peut dire sans aucun doute que Denali et Darin ne reverront jamais la lumière du jour. Pour conclure, sache que procès, le juge Peterson visionne la vidéo des derniers instants de Cici, présentée bien sûr comme preuve au procès, et il décrit ce moment comme l'un des éléments de preuve les plus difficiles jamais vus dans sa position de juge. Il qualifie le meurtre de Cici de tragique et insensé. Denali et Darin, ou comment deux tordus se rencontrent sur le net et commettent à distance des atrocités. À commencer par les viols d'une petite fille de 9 ans, d'une fille de 15 ans, puis le meurtre de Cynthia, naïve et innocente telle une enfant qui voulait simplement être comme les autres et s'intégrer. Elle avait cru trouver en Denali une amie, sa première véritable amie, une des pires trahisons qu'on puisse vivre des mains de quelqu'un qu'on laisse entrer dans sa vie. L'affaire Cynthia Hoffman, c'est pas la seule affaire criminelle basée sur du catfishing. Il en existe plein. On a Janelle Potter qui va catficher tout son entourage, faisant croire qu'elle se fait harceler sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'un double meurtre soit commis. Mary Shield qui va catficher deux hommes en ligne en utilisant les photos de sa propre fille, ce qui va créer un triangle amoureux mortel. On a aussi Tony Bushby qui va catficher Catherine, une fille qu'il aime en secret. Il crée des faux comptes Facebook pour gagner sa confiance et il enferme la jeune femme dans un piège fatal. Là, on est sur des affaires de meurtre, mais des crimes autour du catfishing, il en existe bien plus. Je t'invite à regarder notamment Tinder Swindler, un excellent documentaire sur Netflix. Et je te laisse sur ça, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.